Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la synthèse des yogas, number 2, de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais en français par la mère. Le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin. Mais là je commence le chapitre 28, le Raja Yoga. De même que le corps et le prana sont pour le Hatha Yogi la clé de toutes les portes fermées du yoga, de même le mental est la clé du Raja Yoga. Mais puisque ces deux systèmes reconnaissent que le mental dépend du corps et du prana dans le Hatha Yoga, totalement dans le système traditionnel du Raja Yoga partiellement, il inclut donc l'un et l'autre la pratique de l'asana et du pranayama. Mais tandis que l'un y consacre toute son attention, l'autre limite ses exercices à un seul et simple procédé et n'attribue à l'un et à l'autre qu'un rôle intermédiaire limité. Il n'est pas difficile de voir que l'homme, bien qu'essentiellement une âme incarnée, est surtout un être physique et vital par sa nature terrestre, et que ses activités mentales, à première vue du moins, semblent dépendre presque entièrement du corps et du système nerveux. La science et la psychologie modernes ont même affirmé en un temps que de cette dépendance était en fait une identité. Elles ont tenté de démontrer que le mental ou l'âme n'avait pas d'existence propre et qu'en réalité, toutes les opérations mentales se ramenaient à un fonctionnement physique. Mais laissons de côté cette hypothèse insoutenable. La dépendance du corps est tellement surfaite qu'on a voulu y avoir une condition rigoureusement obligatoire et que pendant longtemps, la maîtrise vitale des fonctionnements du corps et du vital et le pouvoir mental de s'en détacher étaient considérés comme une erreur, un état morbide du mental ou une hallucination. La dépendance est donc restée absolue et la science n'en a pas trouvé la vraie clé. Elle n'a même pas cherché à la trouver, par conséquent, elle ne peut pas nous donner le secret de la délivrance ni de la maîtrise. La science psychophysique du yoga ne commet pas cette erreur. Elle cherche la clé, la trouve et peut effectuer la délivrance. Car elle tient compte du corps psychique ou corps mental qui est derrière, dont le corps physique est une sorte de reproduction dans une forme grossière. Et elle peut, de cette façon, découvrir certains secrets du corps physique qui n'apparaissent pas à une enquête purement physique. Ce corps mental ou psychique que l'âme conserve après la mort contient également une force pranique subtile qui correspond à sa nature et à sa substance subtile particulière. Car partout où il y a la vie, quelle qu'elle soit, il y a nécessairement une énergie pranique et une substance dans laquelle elle se meut. Et cette force circule par un système aux multiples canaux appelé nadi, ou organisation nerveuse subtile du corps psychique, qui se rassemble en six centres, ou plutôt sept, techniquement appelés des lotus ou des cercles, chakras, lesquels s'échelonnent jusqu'au sommet où se trouve le lotus aux 1000 pétales, d'où jaillit toute l'énergie mentale et vitale. Chacun de ces lotus est le centre ou le magasin d'un système particulier d'opérations et de pouvoir ou d'énergie psychologique. Chaque système correspond à un plan de notre existence psychologique qui se déverse en même temps que les courants des énergies praniques lors de la circulation à travers les nadis. Le corps physique reproduit la disposition du corps psychique avec sa colonne vertébrale telle une tige et ses centres ganglionnaires semblables aux chakras, qui s'échelonnent de la base de la colonne vertébrale où est attaché le centre le plus bas, jusqu'au cerveau où se trouve leur terminaison dans le lotus aux 1000 pétales ou Brahma Randra, au sommet du crâne. Toutefois, ces chakras ou lotus sont fermés dans l'homme physique, où ils ne sont que partiellement ouverts, ce qui fait que seuls sont actifs en lui le genre et la qualité de pouvoir qui suffisent à sa vie physique ordinaire, et que seule intervient la quantité du mental et d'âme qui s'accorde à ses besoins. Du point de vue mécanique, c'est la raison véritable pour laquelle l'âme incarnée semble tellement dépendre de la vie corporelle et nerveuse, bien que cette dépendance ne soit ni si complète ni si réelle qu'elle le semble. L'énergie de l'âme n'est pas entièrement active dans le corps et dans le physique. Les pouvoirs secrets du mental n'y sont pas éveillés. Les énergies corporelles et nerveuses prédominent, et cependant, tout le temps, l'énergie suprême est là, endormie. On dit qu'elle est levée et somnolente, tel un serpent. C'est pourquoi on l'appelle Kundalini Shakti, dans le chakra le plus bas, ou Muladhara. Quand le pranayama dissout la cloison qui sépare les courants supérieurs et inférieurs du prana dans le corps, cette Kundalini reçoit un choc et s'éveille, et se déroule et commence à monter, tel un serpent de feu. En décelant chaque lotus à mesure qu'elle s'élève, jusqu'à ce que la Shakti rencontre le Purusha dans le lotus aux 1000 pétales, Brahma Randra, en un samadhi d'union profond. Pour employer un langage moins symbolique et plus philosophique, mais peut-être moins pénétrant, nous pouvons dire que l'énergie telle de notre être est endormie et inconsciente dans les profondeurs de notre système vital, et qu'elle ne s'éveille que par la pratique du pranayama. Quand elle se déroule, elle ouvre tous les centres de notre être psychologique où résident les pouvoirs et la conscience de ce que l'on appellerait peut-être maintenant notre moi subliminal. Par conséquent, à mesure que s'ouvrent les centres de pouvoir et de conscience, nous avons accès à des plans psychologiques successifs et sommes capables d'entrer en communion avec les mondes ou les états d'être cosmiques qui leur correspondent. Tous les pouvoirs psychiques anormaux pour l'homme physique, mais naturels à l'âme, se développent alors en nous. Finalement, au sommet de son ascension, cette énergie montante en expansion rencontre le moi supraconscient caché au-dessus et derrière notre existence physique et mentale. Cette rencontre provoque un profond samadhi d'union où notre conscience de veille se perd dans le supraconscient. Donc, par une pratique minutieuse et sans relâche du pranayama, le hatha yogi parvient à sa manière aux résultats psychiques et spirituels que d'autres yogas obtiennent par des méthodes psychiques et spirituelles plus directes. La seule aide mentale qu'il y ajoute est l'usage du mantra, syllabe sacrée, nom ou formule mystique qui joue un si grand rôle dans les systèmes de yoga indien et qui est le commun à tous. Le secret du pouvoir du mantra, les sept chakras et de la Kundalini Shakti est l'une des vérités centrales de cette science psychophysique et de ses pratiques complexes dans la philosophie tantrique, dit « nous donner un exposé rationnel et un recueil méthodique plus complet ». Le Raja Yoga aussi se sert du pranayama et aux mêmes fins psychiques principales que le Hatha Yoga, mais puisque son système est entièrement psychique de principe, il ne l'utilise que comme une étape dans la série de ses pratiques et d'une façon très limitée à 3 ou 4 usages généraux. Il ne part pas de l'asana ni du pranayama, mais insiste d'abord sur la purification morale de la mentalité. Cette pratique préliminaire est d'une extrême importance. Sans elle, le reste du Raja Yoga risque d'être troublé, gâté et plein de périls inattendus mentalement, moralement et physiquement. Alors, il y a un nota bene. En Inde moderne, Shobindo écrit, « Les personnes qui sont attirées par le yoga et qui ramassent au hasard des procédés dans les livres ou chez les gens peu instruits en la matière, plongent souvent tout droit dans le pranayama du Raja Yoga avec des résultats fréquemment désastreux. Seuls ceux qui sont très forts spirituellement peuvent se permettre de faire des fautes sur cette voie. » Note de Sri Aurobindo. D'après le système classique, cette purification morale se divise en 2 catégories, les 5 yamas et les 5 niyamas. Les yamas sont des règles de maîtrise de soi dans la conduite morale, comme de dire la vérité, de s'abstenir de faire du mal, ou de tuer, ou de voler, etc. En fait, ces règles dénotent simplement une nécessité générale de maîtrise de soi et de pureté morale. Plus largement, yama désigne toute discipline de soi qui tente à conquérir l'égoïsme rajasique, ses passions, ses désirs dans l'être humain et à les tranquilliser jusqu'à la parfaite cessation. Le but est de créer un calme moral, un vide de passion, et de préparer ainsi la mort de l'égoïsme dans l'être humain rajasique. Les niyamas sont également une discipline mentale fondée sur des pratiques régulières dont la plus haute est la méditation sur l'être divin. Leur but est de créer un calme sattvique, une pureté et une préparation à la concentration qui serviront de base et permettront de poursuivre sans danger le reste du yoga. Le contrôle du mental et de notre être moral ne fait mettre notre conscience normale dans les conditions préliminaires correctes. Il ne peut pas amener le développement ni la manifestation de l'être supérieur, psychique, nécessaire au dessein plus vaste du yoga. Pour parvenir à cette manifestation, il faut desserrer le nœud actuel qui lie l'être mental au corps vital et au corps physique, et frayer le passage de l'ascension à travers notre être supérieur, psychique, afin de parvenir à l'union avec le Purusha supraconscient. On peut y parvenir par le pranayama. Quant à l'asana, le Raja Yoga ne l'utilise que dans sa posture la plus facile et la plus naturelle, celle que prend spontanément le corps quand il est assis et recueilli, avec le dos et la tête strictement droits, en ligne verticale, afin d'éviter toute déformation de la colonne vertébrale. Le but de cette règle est évidemment de lier à la théorie des sept chakras et à la circulation de l'énergie vitale entre le Mooladhara et le Brahmarandhra. Le pranayama du Raja Yoga clarifie et purifie le système nerveux. Il permet de faire circuler l'énergie vitale d'une façon égale dans tout le corps et de la diriger aussi où l'on veut suivant les besoins. Ainsi, nous pouvons garder le corps et l'être vital dans un état de santé et de solidité parfaite. Il nous donne la maîtrise des cinq opérations habituelles de l'énergie vitale dans notre organisme et en même temps brise les cloisons habituelles qui limitent notre vie normale aux seules opérations mécaniques ordinaires de la vitalité. Il ouvre entièrement les centres du système psychophysique et amène dans la conscience de veille le pouvoir de la Shakti et la lumière du Purusha. éveillés et dévoilés en chacun des plans ascendants. Si l'on y ajoute l'usage du mantra, le pranayama fait entrer dans le corps l'énergie divine et prépare autant qu'il facilite la concentration en état de samadhi, couronnement de la méthode Raja yogique. La concentration du Raja yoga se divise en quatre étapes. Elle commence par retirer le mental et les sens des choses extérieures, puis elle passe à la fixation d'un unique objet de concentration à l'exclusion de toutes les autres idées et activités mentales, puis par une absorption prolongée du mental en cet objet et finalement à la complète intériorisation de la conscience, qui peut alors dégager de toute activité mentale extérieure et se perdre en l'unité de samadhi. Le véritable but de cette discipline mentale est de retirer le mental du monde extérieur et du monde mental afin de s'unir à l'être divin. Donc, pendant les trois premières étapes, il est nécessaire de se servir d'un moyen ou d'un support mental afin que le mental, habitué à courir d'un objet à l'autre, se fixe sur un unique objet. En cet objet doit être quelque chose qui représente l'idée de l'être divin. C'est généralement un nom ou une forme ou un mantra qui aide la pensée à se fixer exclusivement sur la connaissance ou l'adoration du Seigneur. Par cette concentration sur l'idée, le mental passe de l'idée à la réalité qu'elle représente et y plonge silencieux, absorbé, unifié. Telle est la méthode traditionnelle. Il y en a d'autres qui sont également de caractère raja-yogique, qu'elles servent de l'être mental et de l'être psychique comme d'une clé. Certaines visent à l'immobilisation du mental plutôt qu'à son absorption immédiate, telle la discipline qui consiste tout simplement à observer le mental en laissant son habitude de vagabondage s'épuiser dans une course sans dessein dont il sent que l'on a retiré tout assentiment, toute intention, tout intérêt. Ou cette autre méthode plus ardue, plus rapidement efficace, qui exclut toute pensée dirigée vers le dehors et force le mental à plonger en lui-même dans une tranquillité absolue où il ne peut que refléter l'être pur ou disparaître en son existence supraconsciente. Les méthodes diffèrent, mais le but et le résultat sont les mêmes. Alors, je vais conclure avec cette fin. On pourrait penser que toute action et le but du Raja Yoga se termine ici, car son action est d'immobiliser les vagues de la conscience et de ses activités multiples, chit Hatha Vritti. D'abord en prenant l'habitude de remplacer la turbulence des activités rajasiques par le calme lumineux des activités sattviques, puis en arrêtant toute activité. Et son but est d'entrer dans une communion silencieuse de l'âme, puis de s'unir au divin. En fait, nous nous apercevons que le système du Raja Yoga inclut d'autres buts, tels la pratique et l'usage des pouvoirs occultes, dont certains semblent n'avoir aucun rapport avec le dessein principal du Raja Yoga, ni même être compatible avec lui. Ces pouvoirs ou siddhis, en effet, sont fréquemment condamnés comme des dangers ou des distractions qui détournent le yogi de son unique but légitime qui est l'union divine. Il semblerait donc naturel que ces pouvoirs dussent être évités sur le chemin et il semblerait qu'une fois le but atteint, ils soient superflus et frivoles. Mais le Raja Yoga est une science psychique et il inclut l'acquisition de tous les états de conscience supérieurs, de tous les pouvoirs par lesquels l'être mental s'élève jusqu'au supraconscient, non moins que la possibilité ultime et suprême d'union avec le Très-Haut. En outre, tant qu'il est dans le corps, le yogi n'est pas toujours inactif mentalement, ni plongé en samadhi. Il est donc nécessaire, pour que la science soit complète, de tenir compte des pouvoirs et des états qui lui sont accessibles sur les plans de son être. D'abord, ses pouvoirs et ses expériences relèvent des plans vital et mental au-dessus du monde physique où nous vivons, et ils sont naturels à l'âme dans le corps subtil. À mesure que diminue notre dépendance du corps physique, ces activités anormales deviennent possibles et se manifestent même spontanément sans qu'on les cherche. On peut les acquérir et les fixer par certains procédés que donne la science raja yogique. Leur utilisation dépend alors d'un acte de volonté, ou bien on peut les laisser se développer d'eux-mêmes et ne s'en servir que quand ils viennent ou quand le divin en nous pousse à les utiliser. Ou encore, même s'ils se développent et interviennent naturellement, on peut les rejeter par une dévotion exclusive à l'unique but suprême du yoga. Ensuite, il existe des pouvoirs plus grands encore et plus complets qui relèvent des plans supramentaux. Ce sont les pouvoirs mêmes du divin en son être spirituel et en son idéation supramentale. Ceux-ci ne peuvent pas du tout s'acquérir sans danger, ni intégralement par un effort personnel. Ils ne peuvent venir que d'en haut, où ils deviennent naturels quand on s'élève par-delà le mental et que l'on vit en l'être, en la conscience, l'idéation et le pouvoir spirituel. Dès lors, ce ne sont plus des siddhis anormaux ou les laborieusement acquis, mais simplement la nature même de notre être et son mode d'action, pour peu que nous continuions à être actifs dans l'existence du monde. Pour le yoga intégral, les méthodes spécialisées du Raja Yoga et du Hatha Yoga sont parfois utiles à certains stades du développement, mais elles ne sont pas indispensables dans l'ensemble. Il est vrai que leurs buts principaux doivent faire partie de l'intégralité du yoga. Mais on peut y arriver par d'autres moyens. Les méthodes du yoga intégral, en effet, doivent être essentiellement spirituelles et dépendent à une grande échelle des méthodes physiques et des procédés psychiques ou psychophysiques stéréotypés. C'est substituer un fonctionnement inférieur à un fonctionnement supérieur. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question plus tard, quand nous aborderons le principe final de synthèse des méthodes auxquelles conduit notre étude de différents yogas. C'est la fin du Raja Yoga, de la synthèse des yogas, number 2, le yoga de la connaissance intégrale, le yoga de l'amour divin, de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par la mer. Je remercie infiniment pour la connaissance que nous donne Sri Aurobindo à tous. Merci, Mère. Merci, Sri Aurobindo.